Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
On peut voyager à cheval et on peut voyager par amour des chevaux. L'écrivain voyageur Jean-Louis Gouraud a fait les deux. Depuis près de 50 ans, il parcourt le monde pour découvrir les relations qu'entretiennent les hommes avec cet animal, de l'Afrique à l'Asie, de l'Orient à l'Occident. Chaque région du monde a donné naissance à des cultures équestres d'une incroyable richesse. Une richesse qui alimente les écrits de Jean-Louis Gouraud depuis de nombreuses années. Il est l'auteur de nombreux articles, romans, spectacles et anthologies à la gloire du cheval. Son dernier ouvrage, publié chez Belin, s'intitule « Petite géographie amoureuse du cheval ». L'ouvrage a été récompensé par le prix Nicolas Bouvier lors du dernier festival Étonnant Voyageur. Cet après-midi, Jean-Louis Gouraud nous emmène au galop à la découverte du monde des chevaux. Et puis en fin d'émission, pour l'aventure en direct, nous tenterons de joindre l'explorateur Evrard Vandenboom en expédition dans une région très difficile d'accès à Madagascar, le Makai.
Chaque automne, Qianglong faisait organiser des chasses où plus de 1000 Mongols à cheval étaient mobilisés pour servir de rabatteurs. Je fus requis par décret impérial. Le voyage fut épuisant. Il pleuvait chaque jour, une bruine insidieuse. J'avais les doigts et les poignets gourds. Nous étions mal installés sous des yourtes humides. J'avais 62 ans. Et les voyages à cheval me brisaient les chines.
Le peintre Giuseppe Castiglione du XVIIe, qui s'est passionné, comme vous, Jean-Louis Gouraud, pour les chevaux, qui a voyagé pour pouvoir les peindre, ces chevaux. Le récit de ces voyages, là, l'extrait qu'on vient d'entendre, ça doit vous rappeler des choses.
Oui, l'histoire de Castiglione est magnifique. Ce moine jésuite est arrivé en Chine à la demande de l'empereur, qui appartenait à la dynastie Manchu, c'est-à-dire une dynastie de cavaliers. Et pour cet empereur, qui est un long qu'on surnomme le Louis XIV chinois, rien n'était plus important, rien n'était plus beau que le cheval, et il lui fallait trouver des artistes qui représentent les chevaux, parce qu'il ne se contentait pas de les avoir dans ses écuries, il voulait en plus les faire représenter par des artistes, il les contemplait.
Et c'est pas facile de saisir la beauté du cheval, aussi bien par la photo que par la peinture d'ailleurs.
Justement, parce que la beauté du cheval ne réside pas à la différence peut-être celle du mouton ou de la vache, dans une espèce de placidité, d'immobilité. La beauté du cheval, c'est le mouvement, c'est sa chorégraphie, c'est son geste. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à saisir, y compris par la photographie.
Vous y êtes allé, vous, en Chine, pour les observer, pour les voir, ces peintures de Castiglione.
Oui, c'était d'ailleurs un moment très émouvant, parce que ces peintures, j'ai appris qu'elles se trouvaient conservées dans les sous-sols, dans les profondeurs du musée national du palais de Taïwan, et non pas de Pékin, mais de Taïwan, et, qui sont des abris anti-atomiques, etc. Et que ces peintures, on ne les montre au public qu'une fois tous les 10 ans. Et donc, ça a été assez compliqué d'obtenir l'autorisation de descendre dans ces réserves. Et lorsqu'on a commencé à m'amener dans cette salle qui ressemblait à une salle de chirurgie, une salle d'opération, où il fallait porter un masque devant la bouche et presque un bonnet sur les cheveux, et qu'on a commencé à dérouler ces rouleaux, je m'attendais, moi, à voir des miniatures, comme je les avais vues représentées dans les livres, mais pas du tout. Ce sont des représentations grandeur nature. Donc, ce qui apparaissait d'abord, c'était les sabots, puis les canons, puis les genoux, puis les jambes du cheval. Et c'était absolument bouleversant de voir ces chevaux sur lesquels chaque poil fait l'objet d'un coup de pinceau, quoi. C'était une...
Ah oui, d'une précision.
D'une précision anatomique parfaite.
Alors, vous aimez tellement les chevaux que vous voyagez vraiment pour ça. Vous êtes prêt à faire des kilomètres pour justement voir une peinture ou pour aller observer, par exemple, où est-ce que vous êtes allé observer les derniers chevaux qui vivent encore à l'état sauvage sur Terre?
Oui, alors il faut savoir que malheureusement, il n'y a plus sur Terre de chevaux sauvages, du tout. Et ça, depuis plus d'un siècle. Il y a des chevaux qui sont retournés à l'état sauvage, mais ce ne sont pas des chevaux sauvages, c'était des chevaux domestiques qui ont pris leur liberté. Ce sont les Mustangs, les Brembis et tous ces chevaux qui vivent en liberté. Mais ce ne sont pas des chevaux sauvages. Les derniers chevaux sauvages sont ceux qui avaient été observés par un explorateur russe du nom de Przyjaźwalski, au milieu, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, sur les contreforts de la Dzungari, qui est une région qui appartient aujourd'hui à la Chine, et qui était habitée par des populations de langue mongole. Et Przyjaźwalski a aperçu au loin ces chevaux pratiquement inapprochables. Il a pu quand même se procurer la dépouille d'un cheval de cette nature qui était mort, pour l'envoyer à Saint-Pétersbourg pour analyse, et c'est là qu'on a découvert qu'il s'agissait bel et bien d'une espèce particulière qui n'est pas Equus caballus comme le cheval domestique, mais Equus Przyjaźwalski, qu'on a baptisé Equus Przyjaźwalski, donc qui est une espèce différente de les chromosomes ne sont pas les mêmes, si vous voulez, qu'avec Equus caballus. Et malheureusement, les tout derniers spécimens réellement sauvages ont disparu à la fin du XIXe siècle. Toutefois, des prélèvements dans les troupeaux sauvages avaient été faits dans des grandes réserves. Et c'est grâce à ces prélèvements-là qu'on trouve encore de nos jours cette espèce qui est encore vivante.
Donc c'est l'espèce que vous avez vue, mais pas à l'état sauvage.
Elle est maintenant domestique, puisqu'elle est sous la protection de l'homme.
Et au Turkménistan, vous avez vu un cheval très aristocratique, semble-t-il. Et il faut le vouvoyer, ce cheval. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Cet animal est si beau, si impressionnant, si élégant, si majestueux, qu'en effet, comme me l'avait dit une éleveuse de ce pays, elle me dit la Khalteke est un cheval qu'il faut, vous voyez, c'est dire à quel point ce cheval a une noblesse.
Et d'ailleurs,
la Khalteke, oui, qu'on peut dire aussi à Khalteke si on est moins snob que moi, mais enfin, moi je mets un point d'honneur à avoir la prononciation indigène, donc c'est Khalteke. C'est un cheval du Turkménistan, c'est son berceau, en effet, la région de Ashgabat.
Et c'est aussi le cheval que vous trouvez apparemment le plus gracieux, le plus beau. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce cheval?
Oui, c'est un, il ressemble, si vous voulez, pour prendre une comparaison plus commune, il est aussi différent des autres chevaux que le lévrier, par exemple, est différent des autres chiens. Il a donc une espèce de distinction, d'élasticité, de maigreur aussi, qui lui donne cet aspect particulier. Sa peau est très très fine, comme de la soie, il a très peu de crin. Il a beaucoup, comme on le dit joliment, il a beaucoup d'air sous le ventre, c'est-à-dire
qu'il a des longues jambes.
Et c'est pas qu'il soit spécialement grand, mais il a des grandes guibolles très élastiques, si vous voulez. Donc on a l'impression qu'il a beaucoup d'air sous le ventre. Et c'est un cheval qui présente l'avantage, la particularité d'être très très endurant, puisque c'est un cheval qui a été fait pour courir dans des régions désertiques.
Ouais. Alors cette fascination pour les chevaux, d'autres écrivains avant vous l'ont exprimé, et pas des moindres. Joseph Kessel, par exemple, dans son livre Les Cavaliers, il avait été impressionné par les cavaliers en Afghanistan, notamment par un jeu très violent.
Il y a là-bas des cavaliers merveilleux qui sont les descendants de Gengis Khan et qui vivent, pour ainsi dire, à cheval dans les steppes.
Et puis alors, il y a le jeu extraordinaire du bouskashi. On égorge un bouc, on lui coupe la tête, on le met dans un trou pas très profond. Autour de ce trou se réunissent des cavaliers en nombre indéterminé. Les règles du jeu sont les suivantes. Un mât est planté aussi à une distance indéterminée, un à droite et à distance égale par rapport au trou à gauche. Le cadavre du bouc doit faire le tour des deux mâts et le gagnant est celui qui le jette dans un cercle tracé à la chaux vive à très peu de distance du trou dont est parti le bouc. Tous les coups sont permis, les coups de poing, les coups de cravache, les cravaches lestées de plomb qui ouvrent les visages, qui déchirent les naseaux des chevaux, mais aussi bien les hommes que les chevaux sont complètement insensibles, tellement la passion est grande. Je vous assure, au bout de cette extraordinaire poursuite, et ces visages, et ces costumes, et ce déchaînement, on a l'impression qu'on a assisté à quelque chose de vraiment grand et d'extraordinaire.
La voix de Joseph Kessel, qui décrit quelque chose à la fois d'assez terrifiant, de très violent, de très sanguinolent, et en même temps quelque chose de fascinant. Vous y avez assisté à ce sport que l'on peut observer en Afghanistan.
Oui, ce sport, je ne sais pas, en tout cas, on peut dire ce jeu, c'est un jeu équestre, oui. D'abord, je voudrais dire que je suis très ému d'entendre la vraie voix du vrai auteur de ce livre magnifique, Les Cavaliers. Je dois préciser aussi que la manière dont il l'écrit est encore plus belle que la manière dont il le raconte verbalement. Mais ce jeu violent, en effet, dans lequel chaque cavalier est seul contre tous les autres, a beaucoup, beaucoup évolué, tout simplement parce qu'on a voulu en faire, justement, un sport. Et donc, il a fallu le codifier. Et l'année dernière, dans un des pays d'Asie centrale, un des plus beaux, un des plus charmants, qui s'appelle le Kyrgyzstan, ont été organisés des jeux nomades mondiaux, enfin internationaux, qui réunissaient les pays du Tadjikistan, d'Afghanistan, de Kyrgyzstan, de Chine aussi, pour justement pratiquer un nombre d'activités traditionnelles, notamment le bouskachi. Sauf que, comment voulez-vous faire des compétitions si vous n'avez pas codifié des compétitions entre équipes, entre pays, etc. Donc du coup, on a adapté, si vous voulez, les règles d'autrefois, très, en effet très violentes, qui se déroulait sur un espace illimité avec un nombre illimité de cavaliers. Maintenant, c'est quelque chose qui ressemble à une compétition de football. C'est-à-dire, il y a deux équipes. Les deux équipes utilisent la même quantité de cavaliers, de compétiteurs. Il y a un arbitre qui est à cheval. Il y a des arbitres de touche. Et donc, il y a deux équipes qui doivent, avec deux buts, voilà. Alors, évidemment,
Vous avez l'air un peu déçu, ça perd de son sel, c'est ça? C'est devenu trop propre, ce sport? Vous préfériez quand ça saignait un peu? C'est ça?
Enfin, il y a d'autres jeux tout à fait traditionnels qui sont tout à fait charmants. Juste un mot quand même pour le plus charmant d'entre eux, qui s'appelle Attrape la jeune fille.
Ah oui.
Voilà, qui est un sport qui consiste à envoyer d'abord une jeune fille sur un cheval, de lui laisser un petit peu d'avance, et puis ensuite de laisser un cavalier, un garçon derrière, pour le courir derrière. Le but du jeu consiste à pouvoir faire une bise à la fille, dans le meilleur des cas, ou lui prendre un voile ou quelque chose de ce genre. Mais pendant tout ce parcours, la fille a tous les droits pour se défendre, y compris donner des coups de cravache, mordre, rugir, etc.
Vous avez assisté aussi à ce genre de...
Naturellement, j'ai même participé.
Ah, vous avez participé? Vous êtes pris des coups de cravache?
J'ai attrapé une jeune fille.
Oui. Ah oui, très bien. Vous êtes pris quelques coups de cravache également. Alors, on le sent, vous êtes un vrai passionné, incollable des chevaux. Vous les avez rencontrés dans bien des pays. Vous êtes allé sur tous les continents. On va donner d'autres anecdotes dans cette émission. Mais cette passion, elle vient d'où, Jean-Louis Gouraud? Qu'est-ce qui vous fascine tant chez cet animal pour y avoir passé 50 années de votre vie?
Oui. C'est une question que je me suis longtemps posée, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, parce que je suis né à Paris. Bien que je sois né il y a très très longtemps, les chevaux avaient déjà disparu de Paris. Donc je n'ai pu fréquenter les chevaux, commencer à monter à cheval que vers l'âge de 14 ans ou quoi. Et donc je n'ai pas de vraie explication, sauf une certaine puérilité. J'étais attiré par l'innocence, sans doute. Les enfants sont très attirés par les chevaux. Mm-hmm. Vous savez, ce sont les adultes qui empêchent les enfants d'approcher les chevaux en disant non, t'approches pas, c'est dangereux, etc. Mais les enfants sont portés naturellement, spontanément vers cet animal qui est si beau, si gracieux, qui représente la liberté, la vie. Et donc je crois que voilà, c'est tout simplement cette espèce d'enfantillage.
Il y a une autre explication. En Inde, on vous a dit que vous étiez la réincarnation du cheval.
J'hésitais à en parler parce qu'elle n'est pas beaucoup plus rationnelle que la précédente. Mais en effet, un sage m'a dit que j'étais manifestement la réincarnation d'un cheval.
Il vous arrive de vous prendre pour un cheval vous-même?
Il m'arrive de hennir de plaisir, oui.
Oui, vous êtes pudique là-dessus, mais j'ai l'impression que vous avez un comportement équestre parfois, Jean-Louis Gouraud.
Cavalier peut-être.
Oui, Jean-Louis Gouraud nous emmène dans une chevauchée fantastique à travers le monde des chevaux, le temps d'un bivouac sur France Inter. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills. First thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air
out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
A horse with no name, c'était America sur France Inter, le temps d'un bivouac. Accompagné d'un instrument typique de ce pays. La tête de cet instrument à cordes représente un cheval. Le crin de l'archet qui permet de frotter les cordes est en crin de cheval, comme souvent les archets, hein, comme toujours les archets des instruments à cordes, comme le violon. On est en Mongolie. La Mongolie, ça reste, Jean-Louis Gouraud, le pays du cheval.
Oui, c'est un passage obligatoire quand on prétend aimer les chevaux. C'est le dernier pays au monde où les chevaux sont plus nombreux que les hommes. Donc c'est un voyage indispensable. Et puis les espaces infinis, la grande steppe, le désert de Gobi, les montagnes de l'Altaï, tout ça c'est incontournable quand on aime le cheval. Et cet instrument que vous évoquez là est le résultat d'une belle légende. On raconte qu'un cavalier, déplorant à la mort de son cheval, s'est mis à lui caresser les crins et que tout d'un coup, en caressant les crins, ont surgi des sons magnifiques. Et c'est ainsi que serait né cet instrument qui s'appelle le Mohinrur, qui est en effet, dont la queue se termine par la tête d'un cheval.
Il y a une technique un peu particulière, paraît-il, quand on chevauche ces chevaux en Mongolie. Oui. C'est très technique la façon.
L'équitation en Mongolie est une équitation de travail. Hein. On ne fait pas de l'équitation de loisir ou de l'équitation pour se promener. On fait de l'équitation pour aller d'un point à un autre ou pour abattre du bétail ou même pour aller à l'école ou un médecin pour aller voir ses patients. Donc c'est une question de travail et du coup, en général, on a besoin des deux mains. Donc la direction du cheval ne peut pas se faire, pas trop en tout cas avec les mains. Bon, il a fallu trouver un autre moyen de le diriger, donc on le dirige par ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire le poids du corps, la manière dont le corps humain est posé sur le cheval. Donc ils ont inventé une selle qui est assez loin du dos du cheval, enfin qui est posée naturellement sur le dos du cheval, mais qui a beaucoup d'épaisseur, ce qui fait que selon la manière dont vous déplacez vos épaules, vous donnez des indications très nettes au cheval sur l'orientation qu'il faut prendre.
Ah oui, c'est très subtil.
Donc ça s'appelle, c'est une des techniques qu'on utilise l'assiette, donc comme, et non pas les mains ou les éperons, ou les, voyez, c'est, on utilise le poids du corps.
Et alors, ils organisent aussi des compétitions pour essayer de voir la performance des chevaux. Et lors de ces compétitions, les chevaux sont montés par des enfants.
Pendant les vacances, je monte les chevaux de course de mon grand-père. Ça fait 7 ans que je monte à cheval. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 13. Mon grand-père a des chevaux de toutes sortes, mais moi, je monte les plus sauvages.
Extrait du documentaire Les Cavaliers du Mythe. Vous avez, Jean-Louis Gouraud, assisté à, oui, à ce type de compétition. Pourquoi, oui, ce sont des enfants? Ça paraît, oui, dangereux.
Oui, non, non, il y a une raison précise. Il s'agit de montrer que le cheval qui gagne a gagné à cause de ses propres qualités, non pas à cause de l'habileté de son jockey. Et donc, on utilise donc des cavaliers qui ont le moins d'action possible sur le cheval, simplement lui montrer, l'empêcher de divaguer à droite ou à gauche. Mais c'est pour mieux montrer que le gagnant, c'est vraiment le cheval, c'est pas le cavalier.
Vous nous avez dit, si le cheval est si présent encore en Mongolie, c'est qu'il est très utile. Il n'est pas là pour décorer, il sert à tout le monde pour se déplacer. C'est ça le secret pour qu'un cheval existe et ait sa place dans un pays. Il faut qu'il soit utile.
Ah oui, oui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aborder cette question, parce que on assiste actuellement à une vague que je trouve extrêmement inquiétante, sous couvert d'assurer le bien-être animal, des fanatiques de ce bien-être animal, qui en général d'ailleurs ne connaissent pas bien de près les animaux, recommandent de cesser d'utiliser le cheval. Quand on dit, mais pourquoi on leur met un mort dans la bouche? Pourquoi on leur met une selle sur le dos? Pourquoi on se les oblige à travailler, à courir? Il faut que ceux qui défendent ce point de vue sachent que il va, à son extrémité, déboucher sur donc la non-utilisation du cheval. Et à partir du moment où un cheval n'est plus employé, une race, un type de cheval n'est plus utilisé, la race disparaît. Donc il faut savoir que, d'ailleurs, malheureusement, au cours de mes voyages, c'est très souvent que je vois des races en voie d'extinction. Tout récemment, j'étais dans le Caucase du Nord, en Russie, il y a une race magnifique qu'on appelle le cheval kabardine, qui est en voie de disparition, faute d'emploi, faute d'usage. On le voit dans nos régions avec le cheval de trait. Moins on utilise le cheval de trait, plus il sera en voie de disparition.
Ouais. C'est le cas aussi au Kirghizistan. Je crois d'ailleurs qu'une femme que vous connaissez bien, dont vous partagez en fait le même amour pour les chevaux, Jacqueline Ripard, a essayé justement de sauver ce cheval au Kirghizistan. Elle semble aussi passionnée que vous, cette femme.
C'est un très bel étalon. Quel âge a-t-il?
6 ans. Il surveille le troupeau. Il faut protéger les juments contre les loups.
Il est parfait. Je n'en ai jamais vu d'aussi beau au Kirghizistan.
Pourquoi vous intéresse-t-il, mon cheval? Qu'y a-t-il de particulier?
Ses proportions. Regardez, il est presque carré. Le dos est très court. Quand il court, le sabot arrière tombe exactement sur l'empreinte du sabot avant, contrairement aux chevaux anglais. Et son dos ne bouge pas autant de bas en haut. C'est pour cela qu'il est confortable et agile en montagne.
Vous êtes venu exprès de France pour voir des chevaux kirghizes. Qu'est-ce qui vous intéresse chez eux?
J'ai passé toute ma vie au contact des chevaux. Je faisais du saut d'obstacle en Europe. Mais autour d'un cheval, il y a toujours des gens, des femmes, des hommes, des enfants. C'est le lien entre les chevaux et la vie des hommes qui m'intéresse.
Elle est vraiment sur la même longueur d'onde que vous, Jacqueline Ripard.
Complètement, complètement. Et elle a pris le problème par le bon bout. Constatant que l'authentique petit cheval de Kirghizie était en train de disparaître, elle ne s'est pas mise à gémir en disant « Ah, c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Non, elle a voulu, au contraire, retrouver une utilisation pour le cheval, remettre à l'honneur des compétitions d'autrefois qui avaient disparu, de village à village, où on faisait des compétitions pour avoir le meilleur cheval, le cheval le plus rapide ou le plus endurant. Et c'est en redonnant vie à ces traditions, en réveillant au fond ce fond culturel, qu'elle a redonné aux Kirghizes d'un village de la montagne, de réutiliser, de continuer à élever des chevaux. Et donc elle a contribué à faire en sorte que cette race magnifique du petit cheval kirghiz authentique n'est pas disparu.
Alors vous, vous les utilisez aussi, ces chevaux, pour pas uniquement les voir dans des musées ou aller les observer. Il vous arrive de voyager à dos de cheval et sur des distances pas ridicules du tout. C'est un grand voyage que vous avez effectué, que vous racontez dans votre livre « Petite géographie amoureuse du cheval » chez Belin. En 1990, vous êtes parti de Paris pour vous rendre jusqu'à Moscou. Vous aviez deux trotteurs français pour le faire.
Voilà.
Racontez.
Oui, alors tout ça, c'est le résultat de, comme c'est souvent le cas avec les cavaliers, résultat de paris stupides. Quand on m'avait lancé un défi, je l'ai relevé. Enfin, mes amis russes, me racontant l'histoire d'un exploit réalisé un siècle auparavant par un cavalier russe qui avait fait lui le voyage à très grande vitesse entre Kiev et Paris, m'avait dit, mais vous, les Français, vous seriez pas capables d'en faire autant. Donc j'ai dit que si, bien sûr que si. En lançant d'ailleurs, en relevant ce défi, j'étais persuadé que ça ne se ferait pas parce qu'on était à l'époque soviétique.
Et oui.
Et il y avait un rideau de fer. Et on n'avait jamais vu une autorisation donnée à un cavalier de franchir ce rideau de fer. Mais il se trouve que à moi, on a donné l'autorisation. Donc, mis au pied du mur, j'ai bien dû tenir mon challenge, mon pari.
3333 kilomètres parcourus.
Et alors, oui, 3333 kilomètres en 75 jours, ce qui est pas beaucoup pour ceux qui connaissent les chevaux, ils apprécieront. Ça veut dire une moyenne de 45 kilomètres par jour, en utilisant une technique inspirée justement par mon illustre prédécesseur d'un siècle auparavant, qui lui était venu avec deux juments qu'il montait en alternance. Parce que ce que prouve ce genre de pratique, qu'on appelle l'équitation à la turkmène, c'est que ce qui fatigue le cheval, ce ne sont pas les kilomètres. Un cheval est fabriqué par le bon Dieu pour pouvoir faire, ne serait-ce que pour se nourrir, 30 ou 40 kilomètres par jour. Et le soir, il n'est pas fatigué. Ce qui fatigue le cheval, ce sont les kilogrammes. Et donc, il suffit d'avoir un cheval que vous tenez en main, qui lui ne porte aucun poids, ne tire aucune charge, et le soir, c'est un cheval frais, que vous utilisez le lendemain, pendant que celui que vous avez utilisé la veille se repose en vous accompagnant le lendemain.
Celui qui ne porte rien, celui qui voyage à vide, se repose, même
voilà,
s'il parcourt la...
Il récupère.
Même s'il parcourt la distance. Alors, votre prédécesseur, dans les pas desquels vous étiez, lui avait mis beaucoup moins de temps, quand même. Il avait fait le même trajet en 33 jours, en deux fois moins de temps.
Non. Ne commencez pas à diminuer mes mérites. Non. Il avait fait une distance deux fois plus courte aussi.
Ah,
donc,
c'est ça.
Non, mais c'est à part ça... Bien sûr que son exploit est tout à fait remarquable. Hommage à Mikhail Asseyev, oui. Puisqu'il s'agit de lui.
Quel souvenir vous gardez de cette traversée? Ça a dû être
mille souvenirs. Mais peut-être le plus tendre, c'est la traversée de la Pologne, qui était à l'époque encore un pays, pardon d'utiliser ce mot, assez arriéré sur le plan. Enfin, l'agriculture se faisait encore très largement avec de la traction animale. Ce qui fait que dans chaque village, chaque endroit où j'avais à m'arrêter, je trouvais des gens qui aiment les chevaux, qui m'entouraient, pas trop pour s'occuper de moi, mais pour regarder quel genre de grands gaillards je ramenais dans leur pays. Souvent, ils sortaient leurs propres chevaux des écuries pour y mettre les miens. Et de la même manière, souvent, ils quittaient leur chambre à coucher pour aller, eux, dormir dans la cuisine. Et ils me donnaient leur chambre. J'ai gardé un souvenir très, très ému de ce voyage en Pologne, sans parler de la vodka, évidemment, qui est un carburant aussi assez utile.
Pour vous, pas pour le cheval.
Oui, c'est ça.
Rassurez-nous. Allez, dans un instant, nous allons faire une halte dans la région française associée aux chevaux, la Camargue. Et puis, bien sûr, vous nous direz, Jean-Louis Gouraud, quelques mots de votre dernier voyage en Corée du Nord.
ici.
C'était difficile, enfin difficile, c'est le titre de la chanson que l'on vient d'entendre chantée par Junior sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Et alors, le cheval de Camargue, justement, qu'on est en train de chevaucher, là, faut en parler, il est très adapté à ce milieu camarguais.
Ben, c'est une bête qui a une capacité, de par son pied, de par sa résistance, notamment aux insectes et toutes choses, de vivre dans ce milieu. Le cheval Camargue a une particularité, par exemple, que aucun autre chevaux, il est capable de brouter sous l'eau.
Ah bon ?
C'est-à-dire que quand il va se trouver dans des périodes très très sèches, lui il va être adapté, il sait qu'il y a des marées, il sait qu'il y a de l'eau, il sait qu'il peut manger dessous. La Camargue n'est pas un territoire facile d'accès, le cheval le rend facile d'accès.
Ouais.
Même aujourd'hui avec les moyens modernes, c'est encore le cheval souvent qui est le plus pratique. Quoi,
peut-être parce plus que, pratique que la voiture parfois.
Ah ben il y a des endroits où clairement la voiture ne peut pas passer, lui tu l'envoies dans un marais, il passe. Il n'y a aucun souci. Quoi.
Nous étions donc en Camargue, un extrait de Into the French Wild Provence diffusé sur Nat Geo Wild avec l'animateur Rémi Dupuis et un éleveur de ces chevaux camarguais. Jean-Louis Gouraud, vous êtes d'accord, ce cheval finalement, il n'y a plus qu'en Camargue qu'il est vraiment utile en France?
Oui, en tout cas, oui, je crois que la Camargue est la dernière région de France où le cheval est encore un outil de travail, un compagnon de travail. C'est pas seulement pour le folklore, c'est pas seulement pour les touristes. Il a une réelle utilité, il accompagne les troupeaux. Et c'est un bonheur de se trouver dans cette très belle région où le cheval est omniprésent et peut circuler dans les rues.
Il a quelque chose de vraiment. Alors là, l'éleveur disait il broute sous la mer, mais est-ce que vraiment.
C'est un cheval amphibie.
Est-ce que vraiment il est différent de tous les autres chevaux que l'on peut croiser à la surface du globe?
Non, alors. Certains historiens prétendent que ce cheval a de très très lointaines origines d'Afrique du Nord. On y voit parfois une certaine influence des chevaux dits qu'on appelle barbes, c'est les chevaux berbères, des chevaux qui utilisaient déjà la cavalerie de Hannibal, donc un demi-siècle avant notre ère. Donc vous voyez, ça pourrait remonter à très loin. Enfin, c'est un cheval de petite taille qui est robuste, résistant, qui a de l'os, qui a bon caractère. C'est un cheval ni trop grand ni trop petit, enfin c'est vraiment idéal, mais y compris pour les débutants. Voilà, et je recommande à tout le monde d'aller en Camargue et on va trouver cheval à son goût.
À son goût de cavalier. On retrouve en tout cas l'idée que vous nous disiez, qui est un cheval n'a sa place que s'il a une utilité. En Camargue, il a une utilité, on en trouve. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les chevaux dans le reste de la France?
Hélas, la plupart des races qu'on appelait autrefois les races de trait, et qui avaient trouvé au lendemain de la guerre une espèce de reconversion pas très brillante, enfin pas très sympathique, qui était la boucherie. Donc, on avait d'ailleurs changé leur intitulé, c'était plus des chevaux de trait, c'était des chevaux lourds, pour bien exprimer que ça faisait du poids.
Ça faisait de la viande.
Du poids de viande, et voilà. Alors l'hypophagie, comme vous le savez, est en très très forte diminution sous l'effet de phénomènes divers, ce qui fait que l'usage aujourd'hui, les usages du cheval de toutes ces races innombrables, magnifiques, qui étaient en plus préservés par l'État, grâce au système unique en France, unique au monde, des haras nationaux qui préservaient l'existence de toutes ces races, le comtois, le breton, l'ardennais, le percheron, etc., les haras nationaux coûtant trop cher à l'État ont disparu. La menace est lourde sur les chevaux lourds. Alors naturellement, des amateurs, des passionnés cherchent à les utiliser dans le débardage, dans des activités, ramassage scolaire. Il y a même quelques communes qui font des efforts dans ce domaine. Mais hélas, tout ça ne représente que un tout petit débouché.
Oui. Alors il y a aussi un autre domaine qui est certainement aussi un domaine, une niche comme on pourrait dire. On peut utiliser le cheval comme compagnon artistique. On écoute un autre amoureux des chevaux, Bartabas.
Mais c'est le rapport que peut avoir un violoniste avec son violon, hein, quelque part. Sauf que là, tu travailles avec un être vivant, quoi. Donc il te répond. Donc c'est d'autant plus intéressant. Le dialogue est d'autant plus intéressant que le vocabulaire que tu arrives à créer avec lui est le fruit d'une complicité. C'est ça qui m'intéresse. Le cheval est un miroir. Il te renvoie ce que tu as été capable de construire avec lui, quoi, en fait. Il y a un vrai rapport de donnant-donnant, j'allais dire, hein, parce que nous, si vous voyez l'organisation de notre vie ici à Zingaro, tout est axé autour des chevaux. Hein. Disons que moi j'arrive à lire un peu exactement ce que pense le cheval. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il va faire, pratiquement au pas près, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il regarde.
Vous auriez imaginé un jour sans cheval?
Pour l'instant non, mais on ne sait jamais. Peut-être un jour je me lèverai et je dis voilà, ils n'ont plus rien à me dire. Hein. Moi je dis souvent, je suis là pour les écouter et c'est eux qui m'inspirent. Hein. Donc, le jour où ils ne m'inspireront plus, j'arrêterai.
Jean-Louis Gouraud, vous appréciez le travail que fait Bartabas avec ses chevaux?
Beaucoup, beaucoup. Je trouve, et en dehors de l'extraordinaire beauté des spectacles qu'il nous propose, de la manière dont il chorégraphie le cheval, y compris dans des situations un peu compliquées, comme en accompagnement, par exemple, du Requiem, qui est une messe des morts, du Requiem de Mozart. En dehors de ça, je suis très très reconnaissant à Bartabas d'avoir amené au cheval beaucoup de monde. C'est-à-dire que il y a, on le voit au succès incroyable, succès international, succès mondial. Je veux dire, Bartabas, c'est un langage universel. C'est le langage du cheval, d'ailleurs, puisque qu'il joue à Tokyo, à New York, à Moscou, à Istanbul ou ailleurs, il remporte le même triomphe. Ce qui montre bien que l'homme est attiré, même s'il ne le sait pas, par cette nature, j'allais dire sauvage, cette nature à l'état brut qu'est le cheval. On a besoin des chevaux, on est attiré par eux. Et Bartabas en est la preuve. Enfin, je n'ai pas de mots, comme vous le voyez, pour dire mon enthousiasme.
Ouais. Bah, peut-être ceux de Buffon, alors, qui lui aussi, à son époque, avait son enthousiasme. J'ai un texte devant les yeux de Buffon. La plus noble conquête de l'homme, que l'homme ait jamais faite, est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre et les gloires des combats. Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte. Il se fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche, il s'anime de la même ardeur. Là aussi, on sent que un lien fort. Finalement, il n'y a pas d'autres exemples de fusion entre...
Non, et justement, cette fusion, cette coopération entre l'homme et le cheval est d'autant plus exaltante qu'elle est mystérieuse, parce que le cheval est un herbivore, c'est un gibier, c'est un... Sa sauvegarde est dans la fuite. L'homme est un carnivore, c'est un prédateur, c'est un chasseur. Et il n'y a pas d'autre exemple, je crois, dans les relations interespèces, qui aboutit à cet accord miraculeux qu'il y a entre un chasseur et son gibier. Les chevaux, d'ailleurs, dans leur mémoire inconsciente, le savent bien. Quand je dis souvent à ceux qui me disent « Ah non, moi les chevaux, j'ai peur des chevaux », je leur explique que celui des deux qui doit avoir le plus peur de l'autre, c'est le cheval, puisque le prédateur de l'autre, c'est pas le cheval, c'est l'homme. Et il y a une magie, c'est sans doute ce qui fait la grandeur, la beauté de cette relation, c'est son mystère. Comment est-ce que cette harmonie a-t-elle pu se produire? Et d'ailleurs, elle s'est produite très tardivement. La domestication du cheval est très récente, 5000 ans peut-être, alors que celle du chien, du mouton, des bovins est beaucoup, beaucoup plus ancienne. Ouais. L'homme a mis beaucoup de temps à comprendre que le cheval pouvait être autre chose qu'un gibier, mais un compagnon.
Votre plus récent voyage, Jean-Louis Gouraud, c'était en Corée du Nord. Il y a des chevaux en Corée du Nord.
Oui, alors non, justement.
Vous aimez la difficulté, parce que pour rentrer, ça a dû être compliqué. Hein.
Oui, les négociations avec les autorités compétentes ont été un peu longues, puisque j'ai mis 3 ans à obtenir mon visa. C'est dû au fait que lorsqu'ils m'ont demandé pourquoi je voulais aller en Corée du Nord, j'ai répondu que je voulais aller en Corée du Nord pour voir des chevaux. Et comme je ne veux pas vendre la mèche, mais comme il n'y a pas de chevaux en Corée du Nord, évidemment, ils étaient un petit peu surpris par ma démarche.
Mais alors pourquoi vous
avez... Ce que ce voyage, en tout cas, démontre, c'est qu'il y a encore des chevaux là où il n'y a pas de chevaux. Le cheval est dans l'imaginaire, le cheval est dans l'allégorie. Et ce qui m'avait attiré, en tout cas intrigué, c'était de voir que toutes les représentations politiques des dirigeants se faisaient toujours à cheval. Kim Il-sung était à cheval, son fils était à cheval, son petit-fils était à cheval dans ces grandes fresques héroïques qui caractérisent l'iconographie nord-coréenne.
Donc il n'y a pas de chevaux vraiment sur le sol nord-coréen.
Non, parce que c'est un pays de rizières et le cheval n'est pas du tout adapté à ce genre de travail. Ils sont des bovins. Ouais. Alors certes, dans l'extrême nord du pays, non loin de la frontière russe, dans cette région qui appartenait en partie autrefois à la Mandchourie, il y a encore quelques élevages de chevaux très rustiques, mais dans l'essentiel de ce pays, il n'y a pas de cheval. Mais le cheval est dans l'imaginaire des gens, le cheval est une allégorie de la vitesse, de la force, du pouvoir. C'est une représentation allégorique, il est encore dans l'imaginaire.
Vous avez quand même visité quelques haras là-bas ?
Oui, alors le régime actuel ne s'emploie pas seulement à construire la bombe atomique et à trouver les engins balistiques qui permettraient de l'amener au-dessus des États-Unis, mais elle se préoccupe aussi d'agrémenter un peu la vie quotidienne. Je crois que le dirigeant actuel, qui est un homme assez jeune, a bien compris qu'on ne peut pas nourrir éternellement son peuple de slogans politiques, qu'il faut aussi, de temps en temps, donner un peu de distraction. Il a fait construire, là, au cours de 2 ou 3 dernières années, un gigantesque aquaboulevard, une station de sport d'hiver, un parc d'attractions et un extraordinaire centre équestre. Magnifique. J'ai visité dans ma vie quelques centaines d'établissements de ce genre. Jamais je n'en ai vu un aussi beau, aussi propre, aussi joliment installé.
Vous avez envie d'y retourner, c'est pour ça que vous dites tout ça. C'est ça, vous voulez pas vous fâcher avec eux.
Et là-dedans, on trouve actuellement une centaine de chevaux. Alors, les Nord-Coréens en sont au balbutiement. Il n'y a pas de grands cavaliers, il n'y a pas d'enseignants, mais ça va venir parce que ce sont des gens sérieux et quand ils veulent quelque chose, on le voit bien avec les engins balistiques. En général, ils arrivent à réaliser leur but.
Cet étonnant voyage en Corée du Nord, là où il n'y a pas de chevaux, mais maintenant il y en a quand même quelques-uns, est à découvrir dans cet ouvrage « Petite géographie amoureuse du cheval », entre autres, parce qu'évidemment c'est 50 ans de voyage à travers le monde à la découverte des cultures équestres. C'est signé Jean-Louis Gouraud aux éditions Belin. Merci à vous. Merci. Jean-Louis Gouraud. Vous restez avec nous dans un instant. Nous allons tenter de joindre Evrard Vandenbaum en expédition dans une région très difficile d'accès, à Madagascar, le Makai. On espère qu'il va décrocher son téléphone satellite.
Non, mais les chevaux étaient tout chelous, des trucs énormes, tout gris, avec la queue plantée au milieu de la tête.
Ouais, des éléphants, oui. The size of your breath are heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite happy. Of these words I've tried to recite, they are close.
Like my life and not, there's no words that I've learned.
just wept, and they can't express pain. These are just words. Oh, I can't express the pain. It's the pain in my soul. Speak the unspoken. A monster God woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you.
Close but not quite, c'était Everything is Recorded de Everything is Recorded. C'est Elsa Béranger qui signe la programmation musicale du temps d'un bivouac. Et à 17h53, il est temps d'essayer de joindre Evrard Vandenbaum quelque part à Madagascar.
Allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, mais c'est le satellite qui m'attend.
Oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Alors, Evrard Vandenbaum se situe actuellement à Madagascar, dans une région qui s'appelle le Makai. C'est une région très très isolée. Son téléphone satellite semble passer, mais le délai de réponse est très long. Donc il faudra être patient entre chaque réponse. Je demande aux auditeurs d'être patients comme moi. Bonjour Evrard Vandenbaum. Alors là, c'est au-delà de la patience, là. Je l'entends pas du tout, Evrard Vandenbaum. Est-il là? Evrard? Il est des aventures en direct qui tombent pas. On me dit dans le casque qu'on l'avait, on l'a perdu. Il est alors pour vous dire en plus, le pauvre Evrard Vandenbaum, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone avant d'être à l'antenne, et il a dû monter avec une échelle de corde parce que dans le Makai il y a un système un petit peu de montagnes et de crevasses, et il est au fond d'une de ces vallées, et pour essayer d'avoir la communication avec son téléphone satellite, il a dû prendre une échelle de corde. Ça a dû lui prendre plusieurs heures de monter jusqu'en haut, et au moment d'être à l'antenne, ça a passé. Alors peut-être qu'on l'aura, peut-être qu'on l'aura pas. L'avantage quand on est en direct comme ça, Jean-Louis Gouraud, c'est que on va pouvoir faire le bonus. Souvent, quand on quitte cette émission, les invités nous disent « Mais on avait encore plein de choses à dire, on n'a pas eu le temps de tout se dire. » Et notamment sur le cheval, on s'est pas tout dit, parce que là, on était à Madagascar. En Afrique, vous y êtes allé aussi. C'est aussi un pays du cheval.
Oui, c'est inattendu, parce que évidemment tout le monde croit que le cheval c'est l'Amérique, c'est les cowboys, etc., mais on ne pense pas du tout ou très peu à l'Afrique. Or l'Afrique a connu de très grands empires cavaliers. Dans toute la bande sahélienne, il y a toujours d'ailleurs de très très bons chevaux. Là où le cheval s'arrête en Afrique, c'est là où commence la mouche tsetse, c'est-à-dire dès que c'est humide, qu'il y a de la forêt, de la verdure. Là, le cheval, malheureusement, ne supporte pas les méfaits de cette fameuse maladie du sommeil qui décime les troupeaux, enfin bipèdes ou quadrupèdes d'ailleurs. Mais de nos jours encore, on trouve en particulier au Sénégal, au Niger, au Tchad, dans toutes ces régions, on trouve des cavaleries extrêmement intéressantes. Et un jeune cavalier habile qui s'appelle Madi Dermé a le projet d'ailleurs de lancer l'année prochaine à Ouagadougou un festival panafricain. À Ouagadougou, il y a déjà un festival du film panafricain qui est bien connu, et il a le projet de lancer un festival équestre à Ouagadougou, ce dans quoi d'ailleurs je l'encourage, faire redécouvrir au monde que bien sûr il y a des traditions équestres en Afrique noire. Et d'ailleurs le chef traditionnel des Mossi, qui est donc l'ethnie dominante au Burkina Faso, chaque vendredi, pour se rendre à la mosquée, il ne peut s'y rendre qu'à cheval. Ouais. Donc le cheval reste encore un moyen d'apparat disons, un signe extérieur de richesse et un symbole du pouvoir.
Vous racontez aussi ce pays, je ne sais plus dans lequel pays d'Afrique c'est, vous arrivez sur un haut plateau,
Là,
surprise, alors que c'est une région normalement où il n'y a pas de cheval, avec les vaches, vous voyez des...
Il s'agit du Cameroun, et le Cameroun justement fait partie de ces zones où malheureusement les chevaux ne peuvent pas survivre normalement. Sauf que une partie du Cameroun a été colonisée par les Allemands avant la guerre 14-18. Et lorsque, à la défaite, les Allemands ont quitté ce territoire, ils ont abandonné leurs chevaux. Et certains lots de ces chevaux ont trouvé un refuge sur des hauts plateaux où justement la mouche tsetse ne vient pas commettre ses dégâts. Et ces chevaux, les populations locales n'étaient pas du tout intéressées, elles en avaient même plutôt peur de ces animaux, de ces bestioles qu'on ne connaît pas, qui font pas partie de la tradition. Et donc ces chevaux, pendant des décennies, ont prospéré, se sont multipliés. Et là, je ne sais pas, parce que malheureusement, le voyage que j'ai fait là-bas, le dernier voyage que j'ai fait là-bas remonte à une dizaine d'années. J'espère qu'ils prospèrent toujours. Et on se croit au paradis, quoi, puisqu'on arrive là dans un lieu où il n'y a aucun prédateur, ni les hommes, ni les insectes. Et le cheval, il prolifère.
Donc il est à l'état sauvage, là, il n'est plus...
Alors sauvage, encore une fois, non, puisque ce sont des chevaux qui étaient domestiques, mais...
Oui. Vous ne considérez pas qu'un cheval domestique, quand il revient à la nature seule, il revient à l'état sauvage?
Non, c'est un cheval qui est marron, on dit, c'est un marronnage, si vous voulez, mais il n'est pas... Un cheval qui est passé par les mains de l'homme est définitivement pas un cheval sauvage. Mmh. Même s'il revient à l'état de... C'est un cheval en liberté, si vous ne savez pas, mais c'est pas un cheval sauvage.
Ouais. Donc il n'y a plus, vous nous l'avez dit, il n'y a plus de chevaux sauvages sur la planète.
Il faut vous faire une raison.
Il faut se faire une raison.
C'est bien que tout ça est bien triste.
Oui, c'est bien triste. C'est vrai que c'est un petit peu triste. Allez, je rappelle le titre de votre livre. Merci pour ce petit bonus que vous nous avez offert. Et désolé de ne pas avoir réussi à joindre Evrard Van Den Boom à Madagascar. Je rappelle le titre de votre livre, Petite géographie amoureuse du cheval. C'est signé Jean-Louis Gouraud et c'est paru chez Belin. Merci à vous et bon retour.
Merci à vous, merci.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Demain à 16h, notre bivouac cosmique du vendredi, nous nous intéresserons à une étoile pas comme les autres, une étoile à laquelle nous devons tout, le soleil. Et puis à 17h, nous nous intéresserons aux plantes sauvages et à leurs nombreuses vertus trop souvent méconnues. À demain donc pour de nouvelles aventures.